C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Patricia Highsmith, romancière, nouvelliste, 1917-2005, américaine, athée, lesbienne. Œuvre 5 romans, Monsieur Ripley, The Talented Mr. Ripley, 1955, Ripley et les ombres, Ripley Underground, 1970, Ripley s'amuse, Ripley's Game, 1974, Sur les pas de Ripley, The Boy Who Followed Ripley, 1980, Ripley entre deux eaux, Ripley Underwater, 1991, personnage Tom Ripley. Adaptation, Plein Soleil, film de René Clément en 1960, Alain Delon interprétant le rôle de Ripley, L'ami américain de Wim Wenders, 1977, Ripley, Dennis Hopper, Le talentueux Mr. Ripley, film d'Anthony Minghella, 1999, Ripley, Matt Damon, Ripley's Game de Liliana Cavani en 1999, John Malkovich, Monsieur Ripley et les ombres de Roger Spottiswoode en 2005, Barry Pepper. On peut avoir une interprétation des personnages comme on en a des personnes. Nous ne voyons des personnes que ce qu'elles veulent bien nous montrer et nous cherchons à savoir ce qu'elles sont autrement qu'en notre présence. Enfin, pas moi, je dois dire. Je prends les gens comme ils prennent la peine de se montrer à moi ou je ne les prends pas. Chercher comment ils sont ailleurs, ce qui serait leur vraiment, me paraît illusoire. Le vraiment existe-t-il ? Les êtres humains varient plus ou moins selon les êtres humains avec qui ils se trouvent, moins par hypocrisie que par nécessité d'ajustement. L'être humain est à facettes et il est finalement étonnant que l'on s'étonne lorsqu'on découvre quelque chose d'eux qu'on n'avait pas imaginé. « Je n'aurais jamais cru ça d'elle, une si bonne mère de famille », dit la voisine à la télévision après qu'on a arrêté la meurtrière. Il n'y a pas d'unité humaine ou alors si profonde, si secrète qu'elle a peu d'interaction avec la société. L'unité se fait par des passions, souvent invalidantes et à conséquences certaines sur les comportements sociaux, par exemple la timidité. Il est plus facile de connaître l'unité des personnages car certains créateurs leur en inventent une. Et alors nous voyons tous deux ce qui n'arrive jamais avec les personnes. C'est le propos même du théâtre où les personnages sont condensés en un seul trait de caractère afin de précisément montrer l'effet des passions sur eux. Il existe une autre fiction où les personnages sont une seule chose, c'est la littérature moyenne et le cinéma moyen. Il s'agit là d'une défectuosité plus que d'une intention. Leurs auteurs ont une imagination paresseuse. Les bons romanciers, les bons nouvellistes, les bons cinéastes ne cherchent pas une unité factice, mais travaillent comme des diamantaires au facettage. Le bon créateur n'éclaircit pas, il obscurcit. Il recrée ce que l'on pourrait prendre pour du mystère, mais qui n'est au fond que le compte-rendu des états successifs de la vie. On ne sait pas tout des personnages des bons créateurs, de même qu'on ne sait pas tout des personnes dans la vie physique. Patricia Highsmith n'est peut-être pas un auteur de génie, mais elle a tenté d'éviter l'unité si facile des personnages de criminels avec le personnage de Ripley. Elle a eu d'autre part la finesse de ne pas donner d'explication causale à ses actes. Il ne tue pas pour telle ou telle raison psychologique ou autre, il tue. Nous regardons ses actions comme on regarderait une rivière qui coule. L'intéressant est que ce personnage, par le biais d'adaptations diverses au cinéma, a été envisagé de diverses façons. Tel cinéaste a observé telle facette, telle autre. L'interprétation la plus riche à mon sens est celle de Matt Damon sous la direction d'Anthony Minghella. Qui est Tom Ripley? Qui est le Ripley de Minghella? Pour en parler, je reçois François Rivière, romancier, scénariste de bande dessinée, auteur d'un long et merveilleux suicide sur Patricia Highsmith chez Kalman Levy. François Rivière, à quoi ressemble Tom Ripley dans le roman de Patricia Highsmith, le premier de la série, puisque sur lequel nous allons nous concentrer, puisque c'est celui sur lequel que Minghella a adapté au cinéma.
Patricia Highsmith s'est expliquée sur la naissance de Ripley. Elle a écrit un petit texte un jour publié dans la revue Granta, où elle expliquait qu'un jour en Italie, elle était à Positano et de la fenêtre de son hôtel, elle a vu passer sur la plage, sur les graviers de la plage, un jeune homme en short et en sandales, avec une serviette de bain sur l'épaule, qui semblait très mélancolique. Et bon, c'est tout, c'est une image comme ça qui a passé. Et le temps a passé aussi, et quelques années, même quelques plus tard, elle a Elle a commencé à voir émerger, à voir arriver vers elle ce personnage qui s'est appelé Tom Ripley, mais qui au fond est une émanation parfaite d'elle, je crois. Autant les romanciers imaginent des personnages, les créent, enfin les façonnent, comme un sculpteur qui façonne avec la glaise des personnages. Elle l'a senti sortir d'elle-même, et c'est quand même, on peut le dire d'une certaine manière que c'est son double, mais c'est surtout une espèce de frère, quoi. C'est son frère siamois, c'est ce personnage irrépressible en fait qui est sorti d'elle et dont elle a pas pu s'empêcher de raconter l'histoire.
Mais un frère en quoi?
Ben parce qu'il incarne tout ce qu'elle aurait aimé être d'une certaine manière.
Pas l'assassinat tout de même.
Comment savoir? Elle était vraiment obsédée par... Moi qui l'ai rencontrée plusieurs fois, je peux vous dire qu'elle était quand même obsédée complètement par ça.
Ah oui.
À la fois par la peur de tuer et fascinée justement par le crime. Moins peut-être comme comme c'est le cas pour la plupart des auteurs de romans policiers, ce qu'elle n'était pas en fait du tout. C'est peut-être pas l'auteur le plus merveilleux de la littérature anglo-saxonne, mais c'est quelqu'un d'extrêmement persuasif dans sa manière de mettre en scène justement des personnages qui sont animés par l'envie de tuer. Et je pense qu'elle va partager souvent cette envie de tuer. Je pense qu'elle a jamais...
Il y a une part de cruauté en elle, en tout cas.
Il y a beaucoup de cruauté chez cette femme qui avait l'air tout le temps un peu gênée aux entournures et qui a quand même beaucoup de problèmes dans sa vie solitaire, une vie très solitaire. Pas toujours, elle a eu des débuts dans la vie plutôt agitée à New York, notamment quand elle était adolescente et jeune femme. Mais après, ça a été une grande solitaire, en fait, qui a traîné cette espèce de mélancolie qui est celle de Ripley.
Pour ses interprètes, on peut pas dire que Ripley soit un personnage qui soit plein de ses interprètes, Delon, Denis Hopper, Malkovich, etc. Pour Delon, qui est peut-être l'interprétation la plus connue, il me semble que moi, il fait un Ripley assez vulgairement cruel.
Ben, curieusement, oui, René Clément avait d'abord choisi Maurice René pour incarner Ripley, et c'est la légende dit que c'est Madame Clément qui a dit prends le garçon en montrant Delon, qui effectivement avec ce côté séduisant, presque trop séduisant, est devenu Tom Ripley. J'aime bien Delon comme acteur, enfin effectivement c'est un très très bon acteur, mais je sais pas si au fond il a réussi à incarner ce personnage qui est celui du roman, quoi, et qu'on a envie de voir un peu autrement.
Et les autres interprètes, est-ce que Malkovich vous a intéressé? Est-ce que Denis Hopper, qui est plus psychotique dans son interprétation, vous a...
Ben, Denis Hopper est presque trop évident, enfin, c'est vraiment le Ripley malade, enfin, effectivement, on peut l'imaginer comme ça, Ripley. Et au fond, dans les au fil des romans, sa maladie s'accentue, enfin, et le dernier Ripley, qui est terrifiant à tout point de vue, d'ailleurs, parce que c'est pas non plus un roman très très bon, enfin, il s'enlise complètement dans cette espèce de folie meurtrière, enfin.
Oui, Ripley Underwater d'ailleurs.
Hein, oui, c'est ça. Oui, il est vraiment sous l'eau.
Il est vraiment sous l'eau. Alors, le personnage le plus ambigu, l'interprétation la plus ambiguë et pour moi la plus intéressante est celle de Minghella. Je trouve que c'est là vraiment, c'est l'histoire de ce qu'on appelle un imposteur. Alors après, reste à savoir si les imposteurs existent ou s'ils n'existent pas, plutôt des désirs d'être trompés. Et d'ailleurs, on va raconter ce qui se passe, mais je me demande si c'est pas à partir du moment où Dickie Greenleaf, on va raconter l'histoire, décide de ne plus subir les assauts d'obséquiosité de Ripley, que tout bascule et qu'il le tue. Mais racontez-moi, s'il vous plaît, l'argument du film.
Mais l'argument du film, tout commence comme dans le roman, où on découvre un Tom Ripley qui est déjà un peu homme de toutes mains, qui obéit à l'injonction du père de Dickie Greenleaf, un homme new-yorkais, un personnage important,
riche,
très riche, totalement antipathique, enfin qui envoie ce garçon en Italie, où son fils se trouve et ne veut pas, où il ne veut pas partir, parce qu'on comprend très vite que Greenleaf, le jeune Greenleaf, est un jouisseur absolument.
Entretenu par son père en Italie.
Entretenu. Et Tom Ripley, bon, accepte le deal, mais se présente à Dickie Greenleaf, ne cherche pas vraiment à le séduire d'une certaine manière. Il lui tourne autour et puis il comprend qu'il a affaire à un personnage qui n'est pas bien lui-même dans sa peau, finalement, et il va jouer avec le malaise de Dickie Greenleaf. juif. Et Tom Ripley, au fond, s'empare tout doucement, enfin, de la personnalité de Dick Cunliffe, qui est pas un personnage très fort, en fait. Alors qu'au fond, Ripley,
qui est un frivole, au fond.
Oui, qui est très frivole, alors que Ripley, qui a l'air de rien, qui est un pauvre type, je sais pas comment le dire autrement, un misfit, qui, lui, devient de plus en plus fort à mesure qu'il a sa proie. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans le monde animal, dans le monde des insectes. Et Patricia aimait beaucoup les insectes parce qu'elle observait des choses à l'état brut dans les espèces animales et qu'elle trouvait qu'au fond les humains se comportaient souvent comme ça. Et là, il y a vraiment le personnage de Ripley qui essaie de dévorer, finalement devenir Cunliffe, oui. C'est une manière de le manger, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que Damon le joue comme un empoté et qui est, ça paraît plus, il me semble que dans le roman, il est plus dédaigneux et plus supérieur et ça me paraît assez malin comme interprétation, non? Ce côté empoté au début de Matt Damon.
Oui, dans le film, effectivement, oui, madame. Et Matt Damon qui est vraiment très bien parce qu'avant de devenir le personnage qu'il a absorbé littéralement, oui, il a l'air un peu idiot, enfin, pour capter la confiance, en fait, de Dicky.
Et alors, au début du film, quelqu'un demande à Ripley, à Matt Damon, chacun devrait avoir un talent, quel est le tien? Et c'est bien le problème, c'est que, à part l'imitation, il a pas vraiment de talent. Ou l'adaptation, comme vous disiez, le sens de l'adaptation presque animal. Ah
oui, c'est un imposteur. Il peut pas dire à Dick Cunliffe qu'il est un imposteur, mais lui, il le sait depuis le début. Il joue et sans arrêt. Il n'a pas cessé depuis, apparemment, depuis l'enfance, l'adolescence, d'essayer de tromper tout le monde. Enfin, de mentir. Le mensonge, c'est son truc, quoi. Le mensonge. Mais enfin, c'est aussi la chose que pratique l'écrivain. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est quand même vraiment une émanation intéressante de Patricia Highsmith parce que Ripley, c'est vraiment elle, quoi. Enfin. Et c'est le rôle qu'elle aurait aimé jouer auprès de quelqu'un. Elle a peut-être essayé de jouer, on saura jamais.
Alors, un des grands trucs de Ripley, et de Matt Damon en particulier, est qu'il ne dément jamais rien. Ça, c'est assez fort. On lui dit des choses, il ne dément pas, et on voit bien qu'il ramasse ce qui lui passe sous la main pour le malaxer et essayer d'en faire quelque chose.
Oui, c'est quelqu'un qui laisse venir toujours les gens vers lui, en fait. Et il fait avec, parce que justement, comme s'il avait conscience de pas être une personnalité forte, alors que c'en est une, en fait, dans le mal, en permanence.
Mais pardonnez-moi, mais est-ce que vous pensez que les mauvaises intentions, il les a dès le départ, ou qu'il les découvre lui-même petit à petit, la chose se faisant au fur et à mesure?
Moi, je pense qu'il a ça dans la tête, enfin, il a cette espèce de
d'intention malveillante.
De désir de faire le mal, qui lui vient, je sais pas, de l'enfance. Enfin, là, Patricia n'a jamais raconté vraiment la genèse complète.
Ce qui est bien
d'ailleurs,
parce qu'elle donne pas d'explication psychologique.
C'est d'autant plus intéressant. Ouais, mais justement, elle joue pas la psychologie.
Ah oui, ça c'est son
roman,
sa qualité. Oui.
Qui est souvent une psychologie de bazar, donc
bien sûr, elle
fait beaucoup mieux. Ouais.
Et ce qui est intéressant dans le livre comme dans le film, c'est que des choses apparemment sans conséquence, comme mettons dans le film prêter une veste à quelqu'un, justement, auront des conséquences. Donc c'est ce côté où une espèce de fatalité semble se mettre en place sans que nous le comprenions au début.
Bah, ce qu'il y a surtout dans le film, et ça c'est très bien développé justement, c'est le fait que le personnage de Dick Cunliffe se compromet complètement, enfin, et donne tout ce qu'il faut, tous les éléments. Et là, on est plus dans un roman qui serait policier, enfin dans un film, mais dans une histoire policière plus classique. Je crois même qu'on va encore plus loin. Et curieusement, moi qui ai eu l'occasion de parler avec Patricia Highsmith de Henry James, qu'elle adorait, j'ai l'impression que le scénario de ce film tire l'argument du roman de Patricia vers une espèce de mélodrame ample. Parce que c'est ample, il se passe beaucoup de choses
bien sûr, quand même,
beaucoup plus que dans le roman, qui est assez rapide, et du coup, par moments, qui peut sembler artificiel, il le tire vers un mélodrame à la Henry James, et je trouve ça fascinant, et je sais pas ce qu'on peut en penser, mais on n'est plus vraiment dans Patricia Highsmith, mais on est dans ce qu'elle, au fond, dans tout ce qu'il y avait comme intention cachée chez elle.
Ah, vous trouvez, oui. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il tue, puisque Ripley tue au bout d'un certain moment, Dickie Greenleaf. Et ce qui est assez bien fait dans le film, c'est que Ripley tue Dickie Greenleaf en lui disant stop, stop, stop. Et il le bat à coup de rame et c'est assez frappant. Il lui crie assez et c'est lui qui le tue. C'est que, au fond, il fait ça sans aucune conscience morale.
C'est une manière de se débarrasser d'un personnage, de quelqu'un qui lui devient insupportable. Et le stop, stop, effectivement, c'est pour dire, arrête d'être, alors que, effectivement, c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est le pauvre Dickie qui devrait lui dire d'arrêter. Mais c'est, et là, on voit qu'il est profondément malade, quand même.
Mais après, il n'a pas de remords apparents, il n'a pas de...
Non,
il y a juste un calcul de se camoufler.
Il poursuit son imposture et là on est dans un quiproquo, etc.
Ah oui, il y a un enchaînement très bien fait.
On sent que le personnage assure vraiment totalement ce rôle qui est devenu le sien, mais alors qu'au début effectivement il avait l'air d'un idiot, mais là il devient vraiment un criminel parfaitement au point.
Ce qu'il y a d'intéressant dans le film et qui me semble-t-il ressemble assez à la façon de composer son histoire de Patricia Highsmith, c'est que l'énigme n'est pas dissimulée et qu'elle se déroule sous nos yeux. Et ça, c'est au contraire de tant de romans policiers où tout d'un coup, on a quelque chose qui nous est caché et où un détective vient découvrir des choses. Nous, tout se passe sous nos yeux.
Non, c'est vrai, elle ne dévoile pas du tout l'énigme comme on fait en général. C'est vraiment tout sauf le modus habituel du roman de détection, enfin, ou même le suspense psychologique. On l'a assimilé, malheureusement, à mon avis, à ça, cette forme de fiction, de genre, quoi, qu'elle ne pratique pas du tout, en fait.
Non,
quoi. Mais effectivement, elle ne cache jamais rien.
Non, et alors, ce cas d'assez frappant dans les romans de Highsmith et dans celui-ci en particulier, c'est que je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, c'est que les meilleurs moments, ceux où elle écrit le mieux, ce qui est peut-être pas un grand éloge que je vais faire de sa personnalité, mais c'est quand elle est méchante. On sent bien qu'elle a des bouffées de méchanceté vis-à-vis de ses personnages qui lui font plaisir et qui la font écrire mieux.
Mais quand elle devient méchante, effectivement, elle est bien meilleure parce que elle est vraiment dans son rôle. J'ai l'impression qu'elle réfrénait beaucoup tout ça, tout le temps. Et effectivement, il y a des espèces de bouffées de colère. Mais là aussi, on est encore dans la maladie. On est encore dans le personnage de Ripley. Sauf que dans la vie courante, je pense qu'elle était, elle se retenait énormément. Et elle avait besoin d'échappatoire. Parce que son style est quand même assez plat.
Oui.
Toujours. Alors effectivement, il y a les petits moments où ça...
Et qui viennent dans les moments de méchanceté.
Dans les moments où, oui, bien sûr. Oui.
Nous allons maintenant entendre Matt Damon chanter dans le film le talentueux Mr. Ripley. Il interprète My Funny Valentine. C'était donc en 1999.
My Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art.
François Rivière, nous sommes donc en train de parler du personnage de Tom Ripley tel que Matt Damon l'interprète dans le film de Minghella. Il n'est pas sans intérêt de signaler que Patricia Highsmith était lesbienne, et je dis ça parce que, comme certaines autres créatrices lesbiennes, et je pense à Marguerite Yourcenar, je me demande si elle ne s'est pas servie de la fiction pour montrer des personnages homosexuels, mais masculins, parce qu'elle ne pouvait pas le faire pour les femmes.
Oui, sans doute, mais je crois aussi, moi, et effectivement ça concerne Yourcenar, qui a montré à quel point elle était devenue Adrien elle-même quoi, à la fin de sa vie, elle n'aimait pas les femmes, elle a quand même écrit une série de nouvelles absolument terrifiantes, où elle tue, enfin...
Vous parlez de Highsmith.
De Highsmith, oui, où elle tue des femmes, c'est absolument terrifiant. Je pense qu'elle était beaucoup plus fascinée par les hommes, en fait, que par les femmes.
Alors, il y a quand même, dans son roman, des ambiguïtés sur la sexualité de Ripley, même si rien n'est dit. Hein. Dans le premier roman, il est obsédé par Dickie, il rêve que sa femme va l'abandonner, etc. Et dans une autre interview que j'ai trouvée, Highsmith dit « Je pensais à une époque que la criminalité était liée à des problèmes sexuels. » Donc, est-ce que vous pensez que dans son esprit, et elle parlait de Ripley là, que dans son esprit, elle a pu penser que le fait que Ripley pouvait être homosexuel ou dans le placard ou pas, ait pu entraîner une violence. Et...
C'est assez amusant qu'elle dise ça, parce qu'en fait, elle essaie d'expliquer que c'est un désaccès, donc que les criminels sont souvent des désaccès sexuels. Or, on a l'impression qu'elle veut pas avouer que Ripley est homosexuel. Alors qu'au fil des romans, et notamment sur les pas de Ripley, il s'attache à un jeune garçon et au fond, on sent qu'il est, il fond littéralement pour ce pauvre jeune homme, mais il se retient toujours. Enfin, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'elle va pas jusqu'au bout. Le seul roman où elle est allée jusqu'au bout, mais là, ce sont pas des garçons, ce sont des femmes, c'est Carol. Mais avec Ripley, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, on est dans la retenue totale.
Est-ce que vous diriez que, comme j'en connais une dans un grand jury littéraire parisien, Patricia Highsmith était une lesbienne homophobe?
Non, je crois pas. Je crois vraiment pas, d'autant que si j'en m'en tiens à son dernier livre, Small G, on voit qu'elle est pas du tout homophobe. Bon, alors vers la fin, elle s'est un peu ramollie dans ses opinions.
Parce qu'on a trouvé ses carnets, quand même, la publication de ses carnets à la fin, où elle n'est pas homophobe, mais il y a des mentions
racistes.
Mais elle
pouvait dire des méchancetés sur les... Mais bien sûr, des méchancetés sur tout le monde, donc je crois qu'elle elle a épargné personne. Bien sûr. Ouais.
Est-ce qu'elle s'épargnait elle-même?
Non, pas vraiment. Non, elle se tournait assez en dérision. Elle se trouvait tellement gauche, maladroite, tout ce qu'on voit. Enfin, elle était très modeste. Elle était quelqu'un de très modeste, en fait. Il suffit de lire son essai sur l'écriture du roman de suspense. Enfin, on a l'impression qu'elle s'excuse en permanence.
Alors que elle non plus n'a pas eu à se plaindre, parce que je crois que son premier recueil de nouvelles a eu une préface de Graham Greene extrêmement élogieuse, n'est-ce pas? Tout de suite, elle a été remarquée.
Mais elle a été, oui, elle s'est devenue ce qu'on appelle en anglais, je vais le dire en français, un écrivain pour écrivain. C'est quelque chose qui s'est mis à fasciner beaucoup par cette écriture qui ressemblait au fond à rien d'autre. Enfin,
alors le seul cinéaste, pardon, à avoir exploité cette indication homosexuelle du personnage, c'est Minghella dans Le Talentueux Mr. Ripley, et c'est vraiment le film de l'ambiguïté sexuelle entre les hommes. Et je trouve que Ripley est avec Dickie un peu comme un chat qui approche la patte de l'aquarium et qui est retenu. Et ça commence tout de suite. Il y a une scène d'ailleurs assez belle avec des lunettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où Ripley enlève ses lunettes. Dickie Greenleaf lui dit « Sans tes lunettes, tu n'es même pas hideux ». Ripley sourit, Dickie prend les lunettes de Ripley, les met et lui demande « À qui je ressemble ?». Ripley lui répond « À Clark Kent ». Dickie les enlève et Ripley lui dit « Et maintenant à Superman ».
Oui, il y a ce petit jeu, parce qu'au fond, Dick Greenleaf, qui est assez tout d'une pièce, enfin, se dit « C'est pas possible que ce garçon s'intéresse à moi s'il est pas homo ». On sent que c'est vraiment ce qui lui passe par la tête, et ça va. Et Ripley, qui est malin et qui est pas dans ce jeu-là, justement, va déjouer un peu ça, mais le film quand même se termine par quelque chose qui ressemble à une relation avec ce Peter qui ne quitte plus et qui va lui aussi et qui va mal finir.
Oui, on va la,
et
va,
la
on
dernière va, scène d'ailleurs.
On va le raconter, mais avant ça, il y a quand même une chose. Quand vous dites que Ripley n'y pense pas, il y a quand même une scène où il joue aux échecs dans la baignoire comme ça. Greenleaf étant dans l'eau et Ripley au bord de la baignoire, et puis Dickie sort de l'eau et on voit bien que Matt Damon, Ripley, le mate nu. Et oui. Là, c'est pas un truc ambigu.
Non, il le regarde, effectivement. J'ai envie de dire que c'est une scène de film, parce qu'au fond, est-ce que ça implique vraiment... Il est un peu songeur, quoi, Ripley.
Ah, vous trouvez ?
Oui, non, mais très franchement, même si on peut effectivement imaginer que il y a cette espèce de... J'irais pas fascination, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que depuis le début, c'est là où, au fond, il est très fort, Ripley, c'est qu'il est pas fasciné, vraiment. Ça l'intéresse, je vous dis, comme un insecte qui s'intéresse à un autre insecte qui va... anéantir. Je sais pas s'il est vraiment pris par quelque chose de sexuel, en fait.
Alors, vous l'avez dit, François Rivière, Dickie Greenleaf finit par avoir des soupçons. Il y a une scène où il demande à Ripley « Est-ce que je t'ai vraiment connu à Princeton ?» Et il a cette phrase assez frappante « Aimes-tu le jazz ou c'est à cause de moi ?» Il commence à se rendre compte que dans cet esprit d'imitation de Ripley, il y a quelque chose de très dangereux au fond.
Bah, il se rend compte qu'il y a une espèce de captation de sa personne par ce squatter, parce que c'est quand même un type, c'est un profiteur. Enfin, là, oui, il commence à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et au fond, il devrait, s'il était un peu plus malin, Dicky, il éviterait peut-être ce qui est l'inévitable. Hein. Il est fasciné quand même, lui, malgré tout.
Au fond, au-delà de la sexualité ou de l'amour refoulé, est-ce que vous ne trouvez pas que ce personnage de Ripley dans l'interprétation de Damon est au fond une étude sur l'imitation? C'est-à-dire que il montre que l'imitation poussée au degré où le fait Ripley est un phénomène de dévoration et que l'imitateur, l'idéal de l'imitateur est réalisé par Ripley, c'est-à-dire le meurtre. L'imitateur veut tuer. Mais... en prenant la place.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il veut remplacer le personnage, il l'absorbe complètement, et il faut qu'il le tue, parce qu'il a joué suffisamment, un peu comme un chat qui joue avec une souris, hein. Il y a un moment où il faut en finir, quoi. Et je pense que, mais c'est la cruauté à l'état pur, hein, Ripley. Sous les dehors, matois, enfin, sous tout ce côté, j'en reviens au règne animal, parce que Patricia était très sensible à ça, et au fond, elle observait toujours beaucoup les animaux, en se disant que, au moins, ils étaient moins hypocrites que les humains.
Bah, d'ailleurs, une phrase d'elle dans une autre interview, elle parle de ses personnages et elle dit « Je les observe comme s'ils étaient des escargots ».
Oui, elle adorait les escargots. Elle en élevait beaucoup.
Hein. Elle élevait des escargots?
Oui, oui, elle s'est même promenée un jour entre Londres et Paris en avion avec des escargots qui sortaient de son corsage et qui ont fait très peur à la passagère qui était assise à côté d'elle.
Vous l'inventez?
Non, elle m'a raconté ça.
Alors, je voudrais que vous lire, et vous allez me dire ce que vous en pensez, une interview assez piquante au Monde Magazine de Matt Damon en 2013 où il parle de son interprétation de Ripley. Il dit ceci: je me souviens d'avoir demandé à Heath Ledger comment il arrivait à aussi bien rouler des patins avec un tel naturel à Jack Gyllenhaal dans Le Secret de Brokeback Mountain. En fait, il gerbait après chaque prise, moi non, j'arrive à me tenir. Je trouve que c'est une délicieuse imbécilité qui révèle une homophobie à peine inconsciente et surtout une approche très rudimentaire du métier d'acteur, non?
Oui, on a l'impression effectivement que les acteurs devraient quand même se comporter de manière plus mûre, enfin plus sérieuse, oui. Ouais.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on pourrait faire un opéra à partir de ces aventures de Ripley? Vous voyez, un ténor pour Ripley, un baryton pour l'ami américain qui est à Rome et qui fait partie de l'histoire, on n'en a pas parlé. Enfin, c'est assez opératique, non?
Mozart aurait pu faire quelque chose, oui, avec ça, comme Don Giovanni ou... Non, mais bien sûr, il y a ce côté, cette espèce de danse, c'est la danse de mort, en fait, Ripley. Enfin, toujours ce personnage qui danse comme ça autour d'autres. Ça vient du fond des âges, un peu, hein, quand même. Il y a un côté tribal chez Patricia Highsmith. Je pense que c'est ça quand même qui fascine avant tout. On oublie tout le côté policier, enfin, oui, entre guillemets, enfin... C'est ce qui fait que son œuvre est une œuvre importante, quoi.
François Rivière, que vous a appris le personnage de Tom Ripley?
Bah, ce personnage est tellement unique, il est tellement fascinant que il occupe l'esprit quand on lit les romans, le premier surtout, bon, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Mais il fait aussi qu'on se pose plein de questions, enfin, et on se pose plein de questions sur lui, sur ce qu'il... On essaie de le compléter un peu, au fond, c'est ce qu'a fait Miguel dans son film. Hein. Mais surtout, on en tire une espèce de mélancolie, enfin, c'est un personnage qui, je sais pas, dont on mesure la tristesse immense, enfin, c'est vraiment pas du tout réjouissant, hein. C'est même totalement terrifiant. Alors, bon, même si je pense qu'effectivement il y a le côté un peu double de Highsmith, ça va encore plus loin, enfin, puisque lui il est passé à l'acte, il arrête pas de passer à l'acte dans les livres et il se perd complètement dans le crime. Mais c'est un beau personnage de fiction, vraiment.
C'était Personnage en personne, le 113e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage d'Augustin Maulne créé par Alain Fournier dans Le Grand Maulne.
Comme si j'ai t'es assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée de programme Meryl Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon
c'était
BD.
Un grand jeu.